Choc FM 100%
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette 15e émission de Rendez-vous avec l'économie. Ici Jean-François Parent et vous êtes sur les ondes de Choc FM 105.1. Aujourd'hui, question d'explorer un terrain encore peu abordé ici à l'antenne. J'aimerais débuter cette intervention radiophonique par un sujet fascinant, celui de la réglementation, ou plutôt de la déréglementation des marchés financiers. Ici à Toronto, cela nous concerne directement. Moteur de la finance pour le pays, Toronto occupe une place de choix quant aux décisions pouvant être prises sur la question épineuse de la réglementation des marchés financiers au pays. Et bien que nous ressortons d'une vague de resserrement à l'échelle mondiale depuis les 10 dernières années, plusieurs spécialistes et chefs d'État se penchent sur la question. À en juger par l'orientation de notre voisin du Sud, pour ne pas nommer tout simplement l'administration Trump, il semblerait que nous nous dirigions vers une autre phase de déréglementation. La nouvelle peut paraître un peu non récente, devrais-je dire, car elle a été publiée le 7 février dernier, mais qui reste toujours d'actualité à l'heure actuelle. On y lit. Le projet de la nouvelle administration Trump concernant la finance inquiète, notamment outre-Atlantique. Le nouveau président américain prévoit en effet, conformément à ses promesses de campagne, une dérégulation massive du secteur financier, banques et assurances, notamment comprises aux États-Unis. Un certain nombre de législations contraignantes ont en effet été adoptées, surtout après la crise économique de 2007, afin de prévenir la volatilité et les actions risquées sur les marchés financiers. Le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, considère en effet qu'une régulation trop lâche a été une cause majeure de la crise financière il y a 10 ans. Et revenir à cet état de fait serait dangereux pour la stabilité du système financier. Donald Trump a en effet déjà signé un décret en ce sens et compte faire pression sur la présidente de la Réserve fédérale américaine, Janet Yellen, afin d'aborder les réglementations internationales. Fin de citation. Si vous voulez retrouver cette nouvelle, vous n'avez pas à chercher dans l'actualité, dans les journaux ou dans les commentaires, dans les médias. C'est en fait une nouvelle qui a été publiée, aussi la source peut paraître bizarre, sur Wikipédia le 7 février dernier. Je vous invite à consulter la section économie de Wikipédia qui, en fait, a une mine d'informations et de nouvelles au jour le jour. Cela peut paraître étrange pour moi de citer Wikipédia comme une source, mais en fait, d'après les travaux de plusieurs spécialistes, dont Bernard Stiegler, il est à mentionner que Wikipédia a de l'information claire, nette et précise en beaucoup plus grand nombre que certaines encyclopédies publiées, qui est mise à jour. Et c'est ça l'importance de Wikipédia. L'information est mise à jour en tant que continue. Donc, pour revenir à notre sujet du jour, cette décision n'est pas sans rappeler chacune des périodes de remontée à suivant les multiples crises s'étant déroulées durant les 3 derniers siècles, 19e, 20e et 21e siècle compris. Un cycle de libéralisation des marchés et de déréglementation de certains secteurs d'activité, suivi d'une période de crise, ensuite de résilience et de remontée. On renforce les contrôles et après avoir remonté la pente, quelque peu, oups, tout d'un coup, on relâche la pression. Un cycle qui perdure depuis le 19e siècle, en fait. C'est à se demander si les historiens et les économistes n'ont pas assez martelé aux responsables l'approche cyclique qu'il est possible de reconnaître dans ce jeu de réglementation et de dérégulation des marchés, afin de trouver une piste de sortie, en fait. Somme toute, l'administration Trump semble faire fi de toutes les analyses de ce genre, et ceci laisse présager de mauvais temps pour l'économie américaine dans un premier temps, et pour notre économie ici au Canada même, dans un second temps. Il ne faut surtout pas oublier que notre voisin du Sud est notre plus grand partenaire économique et commercial. C'est que, pour faire simple, le contrôle et la réglementation des marchés financiers visent au bon fonctionnement des bourses et des autres activités financières et du commerce faisant appel à l'épargne publique. Sans un élément de contrôle par l'État, les abus et les crises en tout genre peuvent subvenir, comme nous l'avons vu respectivement en 2008, puis en 2000 avec la bulle du secteur technologique, en 1993, en 1987, en 1977, en 1929, en 1907, et ainsi de suite, on pourrait remonter le cours du temps et remarquer qu'il y a des tendances en matière de régulation, dérégulation, crise, et le cycle se répète. Rappelons-nous rapidement aussi un scénario qui n'est pas si lointain dans notre mémoire, à titre d'exemple. Rappelez-vous, en 1987, soit plus précisément le 19 octobre 1987, ou comme plusieurs le connaissent de par son nom, le lundi noir, le fameux crash boursier à New York et un peu partout dans le monde, en fait. Avec une chute des cours boursiers de plus de 20%, Wall Street enregistrait à l'époque la plus forte baisse jamais constatée en une seule journée. Mais contrairement à la crise de 1929, toutefois, l'intervention massive et rapide de la Fed et des autorités de régulation des marchés, ainsi que d'autres agences nationales, ont permis d'éviter une récession internationale.
Choc FM 100% Toronto.
S'ensuit tout un travail de mesure de l'importance d'une réglementation des marchés face au libéralisme attouchant et d'un contrôle sur ce que les investisseurs et les banquiers opèrent. Trump aurait-il oublié cette crise? Il faut se rappeler que c'est de son vivant où il est en activité à New York. C'est à se le demander. Demeurant persuadé du bien fondé de l'extrême libéralisation des marchés, on se le rappelle, et dans l'un de ses premiers communiqués en novembre dernier, l'équipe de transition de l'administration Trump, ben, qui l'avait formée à l'époque, avait ainsi prévu le démantèlement de la loi Dodd-Frank. Votée en 2010, celle-ci constitue la clé de voûte de la réglementation de la finance instaurée par l'administration Obama, qui, après la crise financière de 2008, on se le rappelle, visait à canaliser les excès de cette dite crise. Et dans quelle direction iront les marchés suite à une déréglementation future si l'administration Trump obtient ce qu'elle veut en bout de ligne? Qui sait? On peut se le demander. On va tâcher ici à l'émission de suivre la situation de près afin de vous renseigner sur ce dossier fascinant des futures orientations que l'économie américaine pourrait subir. Quelles seront les répercussions d'une déréglementation des marchés sur la situation canadienne et torontoise? Et bien sûr, il y aurait bien plus à ajouter sur le sujet, mais malheureusement, le temps presse un peu. Je me dois donc de mettre un léger point d'arrêt sur ce bloc de la discussion, mais ne vous inquiétez pas, on va y revenir éventuellement au cours de la saison. Nous nous laissons donc quelques instants pour une courte pause publicitaire et musicale. Au retour, la suite de Rendez-vous avec l'économie pour cette 15e émission de la saison. Vous êtes sur les ondes de Choc FM 105.1 et de retour après la pause.
Choc FM 105.1, la voix des francophones à Toronto.
Vous êtes de retour sur les ondes de Choc FM, de retour à Rendez-vous avec l'économie. Histoire de démarrer ce nouveau bloc de la conversation en beauté, j'aimerais complètement changer de cap, en fait. Plutôt que de continuer sur le sujet que nous avions au bloc précédent, pour parler d'un sujet d'actualité pressant. Des retentissements se sont fait ressentir dans la dernière semaine dans les médias, de l'attaque au Parlement de Londres, où malheureusement des individus ont perdu la vie tragiquement, jusqu'aux turbulences causées par l'administration Trump. Mais un sujet s'est démarqué des autres en matière d'économie, et ce dernier a été publié le 22 mars de la semaine dernière. En fait, c'est tout simplement le budget fédéral 2017-2018 qui a été officiellement mis à la lumière du jour par le ministre des Finances. Et que dire d'un changement profond par rapport à certains budgets que nous avons eus au cours de la dernière décennie? Semblable, comme on le remarquera plus tard au budget de l'année précédente, mais différent très certainement de la période que nous avons traversée sous la gouverne de l'ancien premier ministre. Des surprises ici et là trouvées dans le budget, comme la coupure du crédit fédéral pour le transport en commun, par exemple, pour des particuliers, ou même encore une hausse de la taxe sur les produits alcooliques, des choses qui déplairont à plusieurs, mais également des annonces qui pourraient soulager quelques maux ici et là. Desjardins en propose en fait une analyse assez complète dans un document publié par son infolettre, qui est Nouvelle Économique, le mercredi 22 mars dernier, et qui va comme suit. Je me permets de faire un résumé un peu là du document, mais si vous voulez plus d'informations, je vous encourage très fortement à vous abonner aux Nouvelles Économiques, une infolettre qui est diffusée quotidiennement. Donc, le document va comme suit. Un budget sans grand éclat pour le 150e anniversaire de la Confédération. Quelques faits saillants pour débuter. Et de 1. Malgré l'introduction de plusieurs nouvelles initiatives, l'impact financier des mesures annoncées dans le budget 2017 est assez limité. Il faut dire que le budget 2016 avait donné un grand coup avec une réduction du fardeau fiscal pour certaines catégories de ménages et l'introduction d'un important plan d'investissement en infrastructure, ce qui limitait la marge de manœuvre du gouvernement. Et de 2. Les mesures introduites dans le budget 2017 mettent l'accent sur le long terme et visent notamment à renforcer la classe moyenne. Numéro 3. Les projections budgétaires demeurent similaires à celles présentées dans le budget de l'an dernier. En outre, un déficit de 23 milliards de dollars est attendu pour 2016-2017, suivi d'un déficit de 28,5 milliards de dollars pour 2017-2018. Une amélioration graduelle du solde budgétaire est prévue par la suite. Et finalement, 4, le ratio de la dette sur le PIB, qui s'élevait à 31% au 31 mars 2016, devrait plafonner à 31,6% au 31 mars 2019, pour ensuite diminuer vers 30,9% au 31 mars 2022. Et pour aller un peu plus en profondeur, l'analyse suivante est proposée. Peu de changements aux projections budgétaires. Même si le budget 2017 comporte une panoplie de nouvelles mesures, force est de constater que le coût financier net est somme toute très limité. Pour 2017-2018, le total des nouvelles mesures s'élève à 1,3 milliard de dollars. Le gouvernement du Canada compte toutefois récupérer 1,5 milliard pour cet exercice à la suite d'une réallocation des ressources financières au sein des ministères et organismes. Ainsi, l'incidence budgétaire nette pour l'exercice 2017-2018 est de plus 0,2 milliard de dollars, ce qui réduira légèrement le déficit. L'incidence budgétaire nette est de moins 0,2 milliard de dollars pour 2018-2019 et de moins 1,9 milliard pour 2019-2020, de moins 1,3 milliard pour 2020-2021 et de moins 0,4 pour 2021-2022. L'impact total des mesures annoncées aujourd'hui sur l'évolution future du solde budgétaire est donc très restreint. Cela dit, d'autres facteurs affecteront aussi l'évolution du solde budgétaire dans les années à venir. Les conditions économiques semblent notamment s'améliorer, comme en témoigne la croissance relativement robuste du produit intérieur brut réel au second semestre de 2016. La plupart des prévisionnistes ont d'ailleurs récemment révisé à la hausse leurs projections pour l'année 2017. Dans ces conditions, les hypothèses utilisées dans le budget provenant de l'enquête effectuée auprès des pionnistes du secteur privé en décembre dernier semblent quelque peu conservatrices. Selon les estimations du ministère des Finances, l'évolution plus favorable de la situation économique et budgétaire depuis l'énoncé de l'automne dernier devrait notamment se traduire par une réduction du déficit budgétaire de 2,4 milliards de dollars en 2017-2018 et de 1,9 milliard de dollars en 2018-2019. Il va sans dire que ces montants pourraient être plus élevés à la lumière des récentes prévisions économiques. Par contre, même si des conditions économiques s'améliorent, les incertitudes demeurent importantes. En outre, la remontée du protectionnisme américain, l'avenir incertain de l'accord de libre-échange nord-américain, ou l'ALENA pour les intimes, ainsi que l'impact potentiel sur la compétitivité des entreprises canadiennes des futures modifications aux règles fiscales américaines, suscitent beaucoup de préoccupations. Dans ces conditions, la prudence s'impose et nous saluons le retour de l'ajustement en fonction du risque, ce qui avait été retiré lors de la mise à jour de l'automne. Afin d'améliorer la transparence, l'ajustement en fonction du risque n'a d'ailleurs pas été appliqué au niveau du produit intérieur brut nominal, réduisant les revenus du gouvernement, comme c'était le cas lors des derniers budgets, mais plutôt appliqué directement au solde budgétaire. La marge de manœuvre de 3 milliards de dollars par exercice, incorporée à compter de 2017-2018, est toutefois deux fois moins élevée que celle présente dans le budget de l'an dernier. Il faut cependant dire que le degré d'incertitude n'a pas la même ampleur en raison de la récente embellie des conditions économiques et de la stabilisation du secteur énergétique. Au bout du compte, en résumé, le profil d'évolution du solde budgétaire présenté dans le budget 2017 pour les prochains exercices est très similaire à celui de l'an dernier. On dénote néanmoins un déficit un peu moins élevé pour 2016-2017 en raison du retard dans l'implantation du plan d'investissement en infrastructure et d'une croissance économique plus robuste. En contrepartie, les déficits prévus pour les exercices subséquents sont légèrement plus élevés. La progression de la dette est aussi semblable aux projections de l'an dernier et le ratio de la dette par rapport au produit intérieur brut devrait demeurer légèrement au-dessus de la barre des 30% jusqu'au 31 mars 2022. Des mesures ciblant l'innovation, les compétences, les partenariats et l'équité. Changement de section. Le budget de 2017 introduit une multitude de nouvelles mesures dont l'impact budgétaire est très limité avec des effets souvent orientés sur le long terme. Dans ce contexte, il est difficile de faire une énumération exhaustive des initiatives introduites aujourd'hui. Voici néanmoins un court résumé des mesures qui ont retenu notre attention. Et ici, je parle au nom de Desjardins, bien entendu. Afin de mieux appuyer les aidants naturels, le budget 2017 propose d'accorder 691,3 millions de dollars sur 5 ans à compter de 2017-2018 et 168,1 millions de dollars par année par la suite pour créer une nouvelle prestation d'assurance emploi d'une durée pouvant atteindre 15 semaines à l'intention des proches aidants. Le budget 2017 propose d'investir jusqu'à 950 millions de dollars sur 5 ans à compter de 2017-2018 pour appuyer un petit nombre de super grappes l'innovation menée par l'entreprise qui présente le plus grand potentiel d'accélération de la croissance économique. Les fonds seront attribués par voie concurrentielle. Le concours, qui sera lancé en 2017, visera les super grappes qui viennent accroître la compétitivité mondiale du Canada en mettant l'accent sur les industries très innovantes comme la fabrication de pointe, l'agroalimentaire, les technologies propres, la technologie numérique, les sciences biologiques, et de la santé, les ressources propres ainsi que l'infrastructure et le transport. Afin d'aider les enfants pour mieux soutenir les familles canadiennes, le budget 2016 prévoyait un montant initial de 500 millions de dollars en 2017-2018 pour l'apprentissage et la garde de jeunes enfants. Prenant appui sur cet engagement, le budget 2017 propose d'investir 7 milliards de dollars supplémentaires sur 10 ans à compter de 2018-2019 afin de soutenir et de créer un plus grand nombre de places abordables et de qualité dans les garderies dans l'ensemble du pays. Autre nouvelle, le gouvernement fédéral propose de mettre sur pied un fonds national pour le logement pour répondre à des problèmes cruciaux en matière de logement et pour soutenir en priorité les citoyens vulnérables, dont les aînés, les autochtones, les survivants qui fuient des situations de violence familiale, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, ainsi que les anciens combattants. Administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ce fonds recevra un investissement de 5 milliards de dollars sur les 11 prochaines années. Le budget 2017 propose également d'investir 4 milliards de dollars supplémentaires sur 10 ans, à compter de 2018-2019, pour bâtir et rénover des logements, des systèmes de traitement des eaux, des installations de santé et d'autres infrastructures au sein des communautés autochtones. De plus, le ministère des Finances annonce un investissement de 6 milliards de dollars sur 10 ans pour les soins à domicile et 5 milliards de dollars sur 10 ans pour soutenir les initiatives en matière de santé mentale. Le gouvernement met de l'avant un investissement supplémentaire de 523,9 millions de dollars sur 5 ans afin de prévenir l'évasion fiscale et améliorer l'observation des règles fiscales. L'investissement servira à financer de nouvelles initiatives et à élargir des programmes existants pour faire en sorte que le régime fiscal soit juste et équitable pour tous les Canadiens et les Canadiennes. Le gouvernement déposera des mesures législatives pour redéfinir le rôle du directeur parlementaire du budget en tant qu'agent indépendant du Parlement, dont le mandat renouvelé sera axé sur l'analyse financière et l'établissement des coûts du gouvernement fédéral, en plus de mettre fin à la culture du secret qui entoure le bureau de régies internes. Finalement, compte tenu de la baisse de la popularité des obligations d'épargne du Canada auprès des Canadiens et des Canadiennes, ce qu'on appelle en guillemets les Canada Bonds en anglais, et à la suite d'un examen du programme, le gouvernement du Canada cessera de vendre tout simplement de nouvelles obligations d'épargne du Canada en 2017. Tous les titres en circulation sur le marché de détail continueront cependant à être honorés. Et je me permets de faire une parenthèse ici, il était mentionné, et je me permets de sortir de cette citation pour intervenir personnellement, que ce programme était en place depuis plus de 71 ans et que ce programme remontait en fait tout juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, soit en 1946. C'est une page donc de notre histoire économique qui cesse tout simplement d'exister. Et je me permets maintenant de revenir directement au document. Continuation de la citation. Un budget de transition en attendant les décisions du président Trump. Point d'interrogation. Les attentes n'étaient pas très élevées pour le budget 2017 et de toute évidence, celui-ci ne passera pas à l'histoire. Plusieurs initiatives ont été annoncées, en ciblant particulièrement la classe moyenne, mais l'impact financier de ces dernières est somme toute limité. De plus, le gouvernement a vraiment mis l'accent sur le long terme dans ce budget puisque la plupart des nouvelles mesures n'auront un véritable effet que dans quelques années. Il faut dire que le budget déposé l'an dernier avait donné un grand coup à notamment l'introduction de mesures réduisant le fardeau fiscal de certaines catégories de ménages, avec un ambitieux plan d'infrastructure qui avait même été bonifié lors de la mise à jour à l'automne dernier. Dans ces conditions, la marge de manœuvre du gouvernement pour annoncer de nouvelles initiatives est assez limitée pour le budget 2017. De plus, il est indéniable que le gouvernement fédéral se garde une certaine latitude pour les prochains budgets afin d'être en mesure de s'ajuster, si nécessaire, aux mesures qui pourraient éventuellement être mises de l'avant par la nouvelle administration américaine. On pense notamment aux relations commerciales entre le Canada et les États-Unis, ainsi qu'à la fiscalité des entreprises. Malgré tout, on aurait aimé que le budget fournisse de plus amples détails sur l'évolution du plan d'investissement en infrastructure. L'implantation du programme a pris plus de temps que prévu et son impact sur la croissance économique a jusqu'à maintenant été plus faible qu'escompté. Une mise à jour à ce sujet aurait été très utile et aurait permis une meilleure analyse de l'efficacité du programme. Voilà! Enfin, fin de citation. C'était un long passage, mais qui en vaut la peine. Pour tous ceux et celles travaillant sur le budget fédéral ou intéressés par la chose, ou même des nouvelles économiques en tout genre, je vous conseille sérieusement de vous abonner aux nouvelles économiques de Desjardins. C'est une mine d'or d'informations. En fait, l'analyse que Desjardins vient de proposer ici à l'antenne est très pertinente et, je l'espère, vous permettra de repartir mieux outillé avec une meilleure compréhension du budget 2017-2018 et que ces informations vous seront utiles dans vos conversations tous les jours ou même à votre travail. Je me permets de terminer sur la chose suivante. Si vous avez des nouvelles ou des suggestions à nous faire parvenir, ou si vous désirez plus d'informations quant au budget fédéral pour cette année ou même pour les années à venir, parce qu'on a vu que c'est bien entendu sur le long terme, communiquez avec nous. N'hésitez pas, vous pouvez nous faire parvenir un courriel ici même à la station ou encore laissez-nous un message sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube ou autre. Nous sommes avides d'informations et de scoops en tout genre. Donc, maintenant, après ce très long bloc de la conversation, on se laisse pour une courte pause publicitaire et musicale. Et au retour, nous discuterons d'autres sujets passionnants à rendez-vous avec l'économie. Si ma mémoire est bonne, c'est la section vulgarisation qui suit. Et vous êtes sur les ondes de Choc FM 105.1, vibrez en français à Toronto. Allez et à tout de suite.
Choc FM 105.1.
Vous êtes sur les ondes de Choc FM à 105.1 et vous êtes de retour à Rendez-vous avec l'économie avec votre animateur Jean-François Parent. Lors des précédentes émissions, j'ai à quelques reprises entrepris une petite section de vulgarisation afin de faire connaître à nos auditeurs et à nos auditrices quelques termes courants utilisés en économie, en affaires, en finance et dans l'actualité en général. Ou encore même des personnages qui ont marqué l'actualité ou encore l'histoire économique. Et je voudrais maintenant poursuivre sur cette tendance qui est maintenant devenue très ici à l'émission et vous faire part aujourd'hui de l'un des personnages les plus connus du monde économique actuel et qui, contrairement à plusieurs des économistes que j'ai mentionnés à cette antenne, est encore vivant et a beaucoup à nous offrir. C'est l'économiste Paul Krugman. Paul Robin Krugman, né le 28 février 1953 à Long Island dans l'État de New York aux États-Unis, est un économiste américain très connu de descendance biélorusse. En fait, je me permets de faire une petite parenthèse ici, c'est son grand-père qui est né en Biélorussie, en fait. Fermeture de la citation. Et qui a obtenu le prix de la Banque de Suède en sciences économiques ou prix Nobel d'économie tout simplement en 2008 pour avoir montré les effets des économies d'échelle sur les modèles du commerce international et la localisation de l'activité économique. Son champ d'expertise, c'est vraiment l'économie géographique. Et il tient une tribune, en fait, depuis 1999 dans le New York Times, vous savez, ce petit journal très connu de New York. C'est qui lui a permis de devenir un faiseur d'opinion et l'une des personnalités néo-keynésiennes les plus connues aux États-Unis. Et si vous vous demandiez jusqu'à maintenant son orientation, son école de pensée, eh oui, il est néo-keynésien. Il a d'abord suivi des études d'histoire à l'université Yale, où il a obtenu un baccalauréat en 1974, puis au Massachusetts Institute of Technology, ou le MIT, la fameuse école aux États-Unis, où il a obtenu son doctorat d'économie, son PhD, en 1977. Après avoir enseigné au MIT de 1984 à 1994, à Stanford aux États-Unis entre 1994 et 1996, à Yale, ainsi qu'à la London School of Economics, il est aujourd'hui professeur d'économie et de relations internationales à l'Université de Princeton. Krugman est connu pour ses critiques contre la politique générale et économique de l'administration de George W. Bush au début des années 2000, et plus largement du Parti républicain dans son ensemble. Il est l'un des principaux auteurs de la nouvelle théorie du commerce international qui repose sur le commerce intra-firme et intra-industrie, les effets de réseau, les situations de concurrence imparfaite. Et ce qui l'amène en 1991 à recevoir la médaille de John Bates Clark de l'American Economic Association, attribuée à tous les deux ans environ par un économiste de moins de 40 ans, donc en jeune début de carrière et ayant apporté une contribution substantielle aux sciences économiques. Et puis, par la suite, comme je l'ai mentionné, il a reçu en 2008 le prix Nobel d'économie pour ses travaux sur le commerce international en concurrence imparfaite et en économie géographique. Il est le co-auteur avec Maurice Obstfeld de International Economics, Theory and Policy, un livre de cours qui est en fait le livre de cours le plus utilisé dans ce domaine aux États-Unis. Mais bien sûr, c'est pas le seul à son actif. Il est au total écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages. Donc, c'est un auteur assez prolifique. Paul Krugman s'est fait connaître du grand public par ses ouvrages de vulgarisation, publiés depuis la fin des années 1980 et grâce à son anticipation de la crise asiatique en 1998. Il est devenu réellement célèbre depuis son entrée au New York Times, dans lequel il écrit un éditorial approximativement deux fois par semaine. Il s'y est illustré comme l'un des critiques les plus virulents du Parti républicain, et je crois qu'il y aurait énormément à dire sur la situation du Parti républicain en ce moment-ci, en l'année 2017. Et surtout là, depuis la grande divergence au début des années 2000, d'autres sujets qu'il a parcourus, l'accroissement des inégalités des revenus et des fortunes, la notion d'inégalité en fait entre certaines tranches de la population et de leur répartition géographique aux États-Unis. Il se définit comme un libéral pur et dur, c'est dans le sens que les États-Unis donnent au terme libéral, contrairement à la définition qu'on pourrait en donner au Canada, en France, en Grande-Bretagne. Il y a toujours des variations selon les pays. C'est-à-dire que dans le contexte américain, comme un économiste qui se situe à gauche, tout simplement. Donc, voilà, j'espère que vous repartez mieux outillés après cette conversation. Et si vous êtes intéressé par en apprendre davantage sur M. Krugman, je vous invite fortement à lire dans un premier temps ses ouvrages de vulgarisation, à lire son œuvre majeure, soit International Economics Theory and Policy, ou même tout simplement, si vous voulez partir du bon pied, allez sur YouTube et tapez Paul Krugman. Vous allez trouver énormément de conférences, de participations à des séminaires, ou même des interventions dans les médias. Et vous pouvez aller vérifier du côté du New York Times aussi pour voir ses chroniques. C'est vraiment fascinant. Et j'espère que vous repartez mieux outillés après cette conversation. Si vous avez des questions supplémentaires ou si vous souhaitez des précisions quant à un sujet spécifique que nous avons couvert à l'antenne, n'hésitez pas à communiquer avec la station. Nous serons heureux de répondre à vos questions, de transmettre des références et des lectures intéressantes sur le sujet pour que vous soyez mieux informés. Il y a une vraie mine d'informations à découvrir tant en ligne qu'en librairie. Et comme chacun des sujets que nous abordons aussi à Rendez-vous avec l'économie, nous vous encourageons à lire, à vous renseigner et à discuter des thèmes que nous avons abordés avec votre famille, vos conjoints, vos collègues, vos proches, vos enfants, etc. Histoire de débattre et de mieux comprendre ce qui se passe dans nos collectivités, à nous, ici, à Toronto, dans la grande région de Toronto, dans l'ensemble du pays et ailleurs. Rien ne vaut mieux que le dialogue et l'échange d'informations valides et véridiques. Voilà. On se laisse attendre une courte pause publicitaire et musicale. Et au retour, d'autres sujets passionnants à Rendez-vous avec l'économie. Vous êtes sur les ondes de Choc FM 105.1, vibrez en français à Toronto. De retour après la pause.
Choc 105.1.
Vous êtes sur les ondes de Choc FM 105.1, la radio 100% francophone de Toronto, avec votre animateur Jean-François Parent. En guise de légère conclusion à cette émission de Rendez-vous avec l'économie, devrais-je dire cette 15e émission de Rendez-vous avec l'économie, quelques petites annonces communautaires, provinciales et nationales. Nouvelle pour le monde en partant des enseignants et des enseignantes de la région du Grand Toronto et des alentours. Pour les parents, les élèves du secondaire âgés entre 16 et 25 ans, cette nouvelle est pour vous. Le Conseil de la coopération de l'Ontario offre désormais en partenariat avec Desjardins le programme de littératie financière « Mes finances, mes choix ». Ce programme d'éducation financière est destiné aux jeunes des milieux secondaires, le tout en français et adapté à la réalité des franco-ontariennes et des franco-ontariens. À la fin de ce programme, le jeune adulte sera en mesure de faire des choix de consommation éclairés, responsables et porteurs de valeur pour lui-même, en tenant compte des différentes options tout en visant l'autonomisation financière. Loin du cours magistral, Mes finances, mes choix utilise une approche participative et dynamique afin de développer et de maintenir l'intérêt des jeunes par des stratégies pédagogiques variées qui suscitent leur implication dans les activités. Ce programme de formation se donne en atelier d'une durée approximative de 2 heures, quoique ça peut varier entre 1 heure et 2 heures, est complètement gratuit. Le CCO et Desjardins fournissent tout le matériel, manuels, guides, exercices pratiques et autres, ainsi que le formateur. En plus d'être adapté au curriculum de l'Ontario, ce programme cadre parfaitement avec la priorité du ministère de l'Éducation de l'Ontario, soit l'augmentation de la littératie financière chez les jeunes. Lancé à l'automne 2016 dans le nord de l'Ontario, le CCO souhaite maintenant développer la livraison du programme dans la grande région de Toronto. Pour plus de détails, veuillez contacter l'équipe du CCO au bureau de Toronto au 416-364-4545. Je répète, le 416-364-4545 ou par courriel à info@cco.coop. Une autre nouvelle, cette fois-ci, qui vient nous toucher directement au cœur de la région du Grand Toronto. La ville initie un projet portant sur une étude pilote de King Street, anciennement appelée étude King Street Visioning. Cette dernière est entreprise afin d'explorer des idées audacieuses et transformatrices sur la façon de remanier King Street dans le but d'atteindre trois objectifs généraux. Et de 1, déplacer les gens de façon plus efficace. De 2, améliorer la création d'un lieu commun. Et de 3, aider à la prospérité économique du corridor de la rue King. Accueillant près de 65 000 utilisateurs du transport en commun à chaque jour, le corridor de la rue King est l'un des endroits les plus achalandés de la ville. Lieu de convergence pour une bonne partie des habitants de la ville, King Street peut être parfois difficile à naviguer. Les véhicules de transport en commun y restent souvent coincés en surface, tandis que les plateformes de métro sont souvent obstruées. C'est pourquoi la ville de Toronto propose une étude pilote sur les façons de transformer ce corridor. Cette dernière testera différentes initiatives qui pourraient améliorer les flux des véhicules et des gens. Vous pouvez y participer au processus de consultation de la ville en vous exprimant sur la question en ligne. Pour plus de renseignements, nous vous encourageons à visiter le site web du projet pilote au www.toronto.ca ou encore en contactant directement l'équipe de la ville de Toronto. Et maintenant pour une nouvelle un peu plus locale. Pour les gens du monde des affaires, de la gestion de projets et de l'analyse financière, cette nouvelle est pour vous. Du 15 au 18 mai prochain se tiendra la conférence Project World Business Analyst World au Metro Toronto Convention Center. Ce sera l'occasion d'entendre des conférenciers de renom internationaux, d'échanger lors d'ateliers, de rencontrer des leaders du domaine de la gestion de projet, de la gestion de programme, de l'analyse d'affaires et de l'intelligence d'affaires, ce que l'on nomme Business Intelligence en anglais. De plus, la conférence célèbre cette année ses 20 ans d'existence. Une occasion donc à ne pas manquer. Et la période pour s'inscrire est encore ouverte, mais la période des tarifs préférentiels est maintenant terminée. Faites donc vite, car les places, bien entendu, sont limitées. Pour plus de détails, visitez le www.pmbaconference.com, conference bien entendu avec un S. Finalement, nouvelle d'envergure nationale venant de Coopératives et Mutuelles Canada. Les coopérateurs émergents du Canada s'apprêtent à lancer une campagne sur les médias sociaux pour mettre en valeur la force et la diversité du mouvement coopératif d'un bout à l'autre du pays. Le 150e anniversaire de la Confédération constitue, bien entendu, à la fois une occasion de célébrer et de réfléchir à la manière dont le Canada se bâtit ses institutions, son économie et sa société. Nous souhaitons donc recenser 150 idées, projets et visages représentant de toutes sortes de coopératives et d'activités au pays afin de présenter pourquoi les gens, aujourd'hui, choisissent le modèle coopératif. Ce projet narratif sera publicisé à grande échelle sur Facebook et Instagram afin de sensibiliser la population au rôle que jouent les coopératives dans notre paysage économique. Vous pouvez y participer en soumettant votre récit coopératif. Si vous êtes un acteur et une actrice du mouvement, ce concours est donc pour vous. Dans l'esprit du 150e, nous demandons aux coopérateurs canadiens de décrire en 150 mots leur vécu coopératif. Parmi les questions que vous pouvez vous poser, comment êtes-vous venu à vous intéresser au modèle coopératif? Que représente une coopérative pour vous? Qu'est-ce qui distingue votre coopérative? Et toute personne résidant au Canada est invitée à soumettre son histoire de coopération. Toutes les soumissions doivent se limiter à 150 mots chacun et inclure une petite photo. Utilisez le mot-clic hashtag coop150 pour nous transmettre sur Instagram ou sur Facebook votre récit coopératif en 150 mots, accompagné de l'image de votre choix. La publication sera partagée en ligne à l'échelle pancanadienne et vous pouvez également nous envoyer à Coopérative Mutuelle Canada votre texte et votre image par courriel à l'adresse cec@canada.coop ou encore au Conseil de la coopération de l'Ontario à info@cco.coop. Et les publications seront publiées en ligne pour vous. Vous pouvez également suivre sur Instagram à @coop150 ou cliquer « J'aime » sur la page Facebook de Coopérative et Mutuelle Canada pour vous laisser inspirer par des expériences coopératives canadiennes. Pour la petite histoire, la campagne a été inspirée par la célèbre collection de photos et d'anecdotes personnelles connue sous le nom de « Humans of New York » sur les médias sociaux, que vous connaissez sûrement. Les émissions les plus populaires seront présentées à Ottawa lors des rencontres officielles de Coopératives et Mutuelles Canada, ou CMC pour les intimes, tenues en juin ainsi qu'en novembre prochain. 150 récits partout au pays seront sélectionnés et publiés sous forme de recueil, lequel sera soumis par dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada. C'est donc l'occasion ou jamais de vous immortaliser dans les archives canadiennes. Et voilà qui conclut notre dernier bloc de la conversation pour cette semaine. Merci de votre écoute. Et si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des soucis, des opinions, des inquiétudes, des idées, des points de discussion, ou si vous aimeriez tout simplement obtenir plus d'informations sur l'un des sujets abordés dans le cadre de cette émission, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Visitez notre site web au www.chocfm.ca ou contactez-nous sur les médias sociaux. Choc FM, vibrez en français à Toronto. Bonne semaine et à bientôt.
Choc FM 105.1, la voix des francophones à Toronto.